Mais c'est pas facile d'écouter la voix de Dieu dans un monde qui est bruyant, un monde qui va mal, en fait, un monde qui est quelque part. On sent qu'il y a des gros problèmes et c'est important de faire le lien entre ce que nous dit la parole de Dieu, et je dirais, et ce qu'on vit au jour le jour. C'est pour ça qu'avant d'entrer directement dans le sujet, prenons le temps quand même de voir l'état du monde. C'est vrai que ça va mal. Bon, j'ai illustré là quelques aspects, mais il y en a d'autres. Hein. Déjà, bon, un monde de violence, c'est sûr. Hein. On n'accepte plus l'autorité, on se révolte contre tout. Pour un oui, pour un non, hein, on tolère plus. Vraiment, il y a cette violence qui manifeste. Il y a aussi, effectivement, il y a une interrogation. On se pose beaucoup de questions. Hein. L'écolo, c'est très à la mode, l'écologie, parce que on voit que la planète se détériore, que les ressources diminuent, comment on va faire pour nourrir tout le monde. Donc, ça, hein, le monde s'inquiète pour ça. Il y a aussi, eh bien, le monde perd ses repères parce que finalement, les valeurs sont renversées. Hein. Ce que Dieu dit est bien, il y a des lois qui disent qui est mal. Les lois disent c'est bien. Hein. Et bon, effectivement, on s'aperçoit que il y a des institutions qui étaient censées nous donner un modèle de vérité, de vraiment de la vérité, elles sont renversées par des tas de scandales. Bon, hein, vraiment, on est dans un monde de scandales. Et aussi, je dirais, on est bon, monde du mensonge. Le mensonge, hein, c'est des fake news, c'est des arnaques. Il n'y a pas de journée sans qu'il n'y ait pas des arnaques, si vous voulez. Hein, donc, on est dans ce monde-là en ce moment. Et je dirais que Dieu pourrait nous dire ce qu'il disait déjà par la bouche de ses prophètes. Hein, j'ai donné deux citations là. Ésaïe 59, 14. Le droit recule, la justice est loin de nous, la vérité trébuche jusque sur la place publique. Hein, et en Osée 4, 1. La vérité a disparu dans le pays, il n'y a plus d'amour, on n'y connaît pas Dieu. Hein. Donc, faut être conscient de ce qu'on vit parce que on est prévenu par la parole de Dieu qu'on va vivre des temps difficiles. Et si Dieu nous a prévenus, c'est pour qu'on soit sur nos gardes et qu'on laisse pas le malin faire son œuvre de destruction, vraiment à tout niveau, hein, que ce soit, je dirais, eh bien, au niveau du couple, de la famille, des enfants, des valeurs chrétiennes. Enfin, le malin, hein, il cherche à détruire, c'est sûr. Et même les églises sont infectées. C'est pour ça que on doit en être conscient. Et si donc nous m'en garde, parce qu'il faut pas qu'on se laisse séduire par toute cette ambiance qui est en train de se répercuter dans le monde qu'on vit. Bon. Et il faut savoir que cette terre, elle est appelée à disparaître. Ça, faut pas l'oublier parce qu'il faut pas se tromper de combat. Vous savez, combattre contre le réchauffement climatique, veiller à la couche d'ozone, éviter de faire moins de gâchis, tout ça, c'est important. Important. C'est ce que Dieu a demandé à l'homme, en créant l'homme, il a dit, il a confié à l'homme la gestion de la planète. Mais attention, hein, on assiste à l'écologie qui est une nouvelle religion. Ça vaut le coup, je ferai peut-être un message là-dessus, parce que je vous assure, il y a beaucoup de nouvelles religions en ce moment. Hein. Bon, il faut pas se tromper, parce qu'un jour, quand Dieu va donner le signal, hein, eh bien, la planète va disparaître. Hein. N'en déplaise aux écologies, hein, aux écolos. On peut faire tout ce qu'on veut, le jour où Dieu décide, la Terre disparaît. Et au jour où Dieu décide, hein, Jésus vient chercher son Église. Bon. En attendant, l'Église, elle est là, et on a une mission.
Amen.
Voilà. Alléluia. Alors, prenez avec moi, donc, on va aller 1 Timothée 3. Hein, c'est ce qui précède ce que Marc nous a lu en début de culte, d'ailleurs. Hein, 1 Timothée 3, à partir du verset 14. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Alléluia. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Mais l'Esprit, on va lire encore quelques versets qui suivent. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons, et par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se varier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec des actions de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Et en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Amen. Donc, verset 15, afin que tu saches comment se comporter dans l'église qui est la maison de Dieu, qui est l'église de Dieu vivant, colonne et appui de la vérité. Il y a des traductions qui disent même une colonne qui proclame la vérité, un lieu où elle est fermement établie. Bon. Donc, le titre de ce message est vraiment « Église, colonne et appui de la vérité ». D'accord. Et je propose donc qu'on puisse avoir quelques points. Ce que représente une colonne, quel rapport avec la vérité, comment l'Église peut remplir son rôle de soutien et d'appui à la vérité. Et puis le plus important, surtout, c'est ce que ça exige de nous en tant que chrétiens pour vraiment eh bien, être cette colonne hein, qui hein, soutient la vérité, dans quel domaine on est concerné, et puis surtout, je dirais, bah, comment nous conduire pour marcher dans la vérité, en fait. Hein. Donc, hein, voilà les points que je vais aborder avec vous. Moi, bon, j'essaierai de ne pas être trop long, parce qu'on aurait déjà avancé. Bon, d'abord, alors, premier point, qu'est-ce que ça représente une colonne? Bon. Le kiné qui était, donc des formations professionnelles, pour moi je pense tout de suite colonne vertébrale. Voilà. On a tous une colonne, oui. Elle permet de se mouvoir dans différents hein, domaines de l'espace, elle nous permet de nous tenir droit, surtout elle relie la tête aux membres. Bon, hein, donc c'est important, la colonne vertébrale, on a tous une colonne là. Bon, on est des vertébrés, pas des invertébrés. Et vous savez que, chose étonnante, c'est que la colonne repose sur un os qu'on appelle le sacrum, ou plateau sacré. Comme si c'est étonnant le nom, hein. Comme si cet os avait reçu une fonction particulière, sacrée, de soutenir la colonne. Hein, et on sait que quand il y a un problème entre la colonne et le plateau sacré, hein, eh bien, c'est des lombalgies, c'est des sciatiques, ça peut être des paralysies. Donc, quand il y a un problème entre la colonne et son fondement, ça pose des problèmes déjà. D'accord ? Et on va voir que l'Église, hein, et donc, elle est basée sur le fondement. Le sacrum de l'Église, c'est le fondement des apôtres, hein, c'est la sainte doctrine, on verra, hein, et que, à défaut, si on respecte pas trop, il y aura des problèmes. Bon. Pour vous qui êtes assis, les colonnes, regardez à droite à gauche, il y en a partout. Hein. Bon, des fois, ça peut en gêner certains, on regrette qu'il y ait autant de colonnes, mais enfin, si quand on a refait la mise donc, aux normes des lieux, si on, des endroits, si on avait supprimé les colonnes, on prenait un grand risque. Hein. C'est que tout s'écroule, bon, bien sûr. Et vous avez même remarqué, elles sont épaissies depuis qu'on a refait les travaux, parce que une colonne, ça conduit les sons, hein, et donc, par sécurité, souci d'isolation, elles sont encore un peu plus épaisses. Bon, enfin. Donc, des colonnes, vous en avez. Dieu parle aussi par tout ce qu'il nous montre. Bon. Chaque fois que vous verrez les colonnes, vous rappellerez ce message qu'on doit être colonne et appui de la vérité. D'accord? Bon. Donc, alors, le contexte, à l'époque, les colonnes, on savait ce que c'était, vous voyez. Reviens sur la première encore. Vous voyez, il y avait des temples partout, les colonnes, elles étaient visibles de l'extérieur, parce qu'en fait, les habitations, elles étaient faites, il y avait beaucoup de colonnes. D'accord? Et quel était le rôle de la colonne? C'était d'appuyer, de soutenir. Hein, on comprend. Donc, c'était... c'est pour ça... Hein, ça, c'était le contexte historique. Mais il y avait aussi une autre fonction que de soutenir les colonnes. Donc c'était justement, hein, c'était de proclamer. Hein, et là, donc on vient à la diapo suivante. C'était, on écrivait sur des colonnes les exploits du général vainqueur, donc les succès qu'il avait remportés. Hein, et notamment la plus célèbre, c'est la colonne de Trajan. Trajan, c'est l'empereur romain le plus connu, enfin le meilleur, à la fin du 1er siècle. Et il voulait célébrer sa victoire sur les Daces, c'est une tribu. Hein, des Carpates, bon, c'est important. Mais Napoléon, il a fait pareil, hein, et dans beaucoup de villes, on voit ça. Pensez donc la colonne Vendôme, ben, vous voyez, Napoléon, succès de Napoléon. Place de la Bastille, il y a là sa mémorial, on rappelle la prise de la Bastille, la colonne de Juillet, bon, mémorial. Et il y a aussi, eh bien, vous avez Place de la République, encore ce matin, j'ai vu une, les fameuses colonnes Maurice. Hein, merci donc à Monsieur Decaux, il a remis vraiment un style moderne, elles tournent sur elles-mêmes, elles sont éclairées. C'est pourquoi, c'est pour afficher les programmes en fait. Hein. Donc ça veut dire, je vous parle de ça parce qu'une colonne, elle soutient, mais la colonne, elle affiche, elle proclame à la vue de tous. Là, c'était les victoires de l'empereur, de Napoléon, tout ce qu'on veut, ou la victoire du peuple qui a libéré, qui a pris la Bastille. Nous, en tant qu'Église, la colonne, ça va être de proclamer, donc on va voir la victoire de Jésus, bien sûr, hein, l'honneur de Jésus. D'accord? Bon. Et on a compris tout de suite, une colonne, pour être, il faut qu'elle soit donc un bon fondement, qu'elle soit droite si possible, d'accord, et qu'elle soit bien placée et visible de tous. On va y revenir. Bon. Donc, premier, alors, rapport avec l'Église, là. Donc, je dis, l'Église, elle est appelée à garder l'authenticité du message de la parole de Dieu. D'accord? Et à proclamer les louanges, donc, de celui qui a vaincu pour nous, donc, de Jésus. Et, parce qu'à l'époque, il y avait un contexte religieux, on l'a lu déjà, il y avait beaucoup de faux docteurs, beaucoup de fausses doctrines. D'accord ? Et c'est le souci de Paul de mettre en garde justement contre toutes ces fausses doctrines. Vous savez, il y avait l'arianisme, par exemple, qui niait la divinité de Jésus. Il y avait le gnosticisme, ça voulait dire que fallait, plus on avait de connaissances, plus on était capable de se libérer des contraintes de la chair, enfin du corps. Enfin, c'était vraiment des doctrines un peu tordues, là, la gnose, le gnosticisme. Il y avait aussi, on pourrait parler de l'ascétisme, on a lu là. Vous ne mariez pas, vous ne mangez pas ceci, vous ne mangez pas cela. On était dans du légalisme. Et Paul n'a cesse vraiment de mettre en garde son disciple Timothée. Je n'ai pas lu le début de la lettre, mais au chapitre 1, verset 3, il dit « Je t'encourage à demeurer à Éphèse pour avertir certains de ne pas enseigner des doctrines étrangères à la foi. » Vous voyez. Bon. Et on a lu là tout à l'heure au verset 10, donc, au chapitre 4, on a vu « Les esprits trompeurs, les enseignements inspirés de démons, des prédicateurs de mensonges. » Et le verset 7, c'est « Ne rejette les récits absurdes et contraires à la foi. » Donc vous voyez, c'est le souci de Paul, c'est « Attention, il y a beaucoup d'erreurs. » Hein, et il dit à Timothée, soit celui qui dispense la saine doctrine, la vérité. D'accord. Bon. Et donc, c'est ce qui anime Paul, l'apôtre Paul. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le verset 16. Hein, le verset 16, en fait, c'est un hymne qui était proclamé à différentes occasions. Et cet hymne à la gloire de Jésus, c'est ni plus ni moins, c'est la colonne, hein, c'est le mémorial, là. Vraiment, c'est la colonne, qui est une conviction de foi, en fait. En l'honneur de Jésus, venu se faire homme, manifesté en chair, vous voyez, mort et ressuscité. On sait que la résurrection de Jésus est la preuve qu'il était juste aux yeux de Dieu, donc il est justifié par le Saint-Esprit, hein, monté au ciel, élevé dans la gloire, et aussi objet d'une foi universelle, prêché à toutes les nations et cru dans le monde entier. Ça, c'est vraiment, je dirais, la colonne à la gloire de Jésus. D'accord ? Bon, une proclamation. Et l'Église, donc, elle s'édifie donc sur cette confession de foi, si vous voulez. Hein, et c'est ce que doit annoncer l'Église, en fait. Jésus, hein, Paul, son souci, annoncer Jésus mort, ressuscité. Incarné, mort, ressuscité. Et parfois, il dira aux Corinthiens, en 2 Corinthiens 11, si quelqu'un vient vous annoncer un autre Jésus que celui que nous avons prêché, vous le supportez. Hein. Les gens étaient prêts à tout, en fait. Alors qu'en fait, l'Église annonce Jésus qui est venu. Apporter, comme nous dit Jean 1,17, la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Hein. Et notez l'importance de ces deux mots, la grâce. On est dans un monde parfois de légalisme. Hein. On oublie que Dieu, il est lent à la colère, compatissant, hein, et Dieu fait grâce. Bon, alors que nous, on est prompt à juger parfois. Et la vérité, c'est-à-dire que c'est pas parce que Dieu fait grâce qu'on doit tomber dans le laxisme, qu'on doit tout se permettre. Hein, donc, en fait, disons que c'est important de ni laxisme, donc, ni légalisme. Soyons dans ce que Dieu nous dit dans sa parole. Bon. Donc, c'est important. Et on n'a pas d'excuse. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Hein, 1 Timothée 2,4. Et ça, c'est important de connaître la vérité, vous savez, parce que c'est ce qui manque à la plupart des gens. Hein. Et quand on est dans l'adversité, hein, si on commence à douter, si on commence à avoir des... je dirais des faux raisonnements. Hein, si on est dans le mensonge, on est fragilisé, on est vulnérable. Et je peux vous dire que la vérité, d'une part, elle libère. Hein, Jésus a dit, donc, seule la vérité vous rendra libre. C'est celui qui ment. Il s'en sort par un autre mensonge, il s'entortille dans ses mensonges, il ne sait plus comment se dépêtrer, il est vraiment ficelé dans ses mensonges. Bon, il n'est pas libre. Bon. La vérité, elle donne un soutien, un appui, on sait sur quoi on s'appuie, on sait où on va, bon, c'est important. Hein, et où pensez-vous que ceux qui sont persécutés par leur foi trouvent finalement la force de tenir bon, parce qu'ils savent qu'on... Hein, cette conviction qu'on est dans la vérité, c'est sûr que c'est important. Important. Et aussi, donc, elle sauve la vérité. Hein. Jésus, c'est le seul chemin, la vérité et la vie. Donc, on annonce Jésus, vérité de Dieu, incarné, venu nous sauver. Important. D'accord ? Et personne ne peut dire je ne sais pas. Parce qu'on entend des gens parfois, oh, mais on ne sait pas si le ciel existe, on ne sait pas s'il y a autre chose là-haut et tout ça. Non. Dieu est venu en personne, il faut quand même se le redire hein, et le faire comprendre aux gens. Hein. Jésus a dit celui qui me voit, vu le Père. Ceux qui ont entendu Jésus parler, entendaient Dieu parler, un langage d'homme. Hein. Jésus, Dieu est venu donc nous donner sa vérité en personne et dans sa parole. D'accord. Et donc la base de cette colonne qui est l'Église, donc c'est cette vérité apportée par Jésus. Hein. Et ça, c'est du solide. Hein. Je peux vous dire que c'est pas pour rien que Jésus, donc il appelait le roc, c'est vrai, hein, le rocher. Et c'est sur ce rocher que l'Église est édifiée. Et parlant du roc, et c'est là-dessus qu'on doit bâtir notre vie aussi. Vous vous rappelez ce que Jésus a dit dans cette parabole en Matthieu 7, il compare que celui qui écoute sa parole et la met en pratique à quelqu'un qui a bâti sur du roc. Hein, la tempête peut venir, ça tient bon. Mais quand on bâtit sur du sable, bon, tout s'écroule. Et un jour, Jésus demande à ses disciples, donc, pour vous, qui suis-je? Et on connaît tous la réponse hein, de Pierre. Alors, en Matthieu 16, 17-19, Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui répond, eh bien, donc, sois heureux parce que ce que tu viens de dire, ça vient du Saint-Esprit, effectivement. C'est mon Père qui te l'a révélé. Et Jésus enchaîne, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Les portes du royaume des morts hein, ne pourront rien contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Et ces paroles de Jésus, elles ont été vraiment mal comprises et mal interprétées. Jésus joue sur les mots. Pierre, ça peut se dire Petra, le petit caillou, Petros, le petit caillou, et Petra, la falaise. Jésus dit à Pierre, tu es Petros, tu es un petit caillou qui est entraîné par un courant d'eau. T'es pas grand-chose, toi, en tant qu'homme. Mais sur cette déclaration de foi, cette falaise, cette pétra, qui représente la reconnaissance de qui je suis, sur cette falaise, je bâtirai mon Église. Sur ce roc, je bâtirai mon Église. Donc, mais Jésus n'est pas en train de dire à Pierre qu'il va être le chef de l'Église. Bon, s'il y avait eu un premier pape, ça n'aurait pas été Pierre. Le premier concile qui a eu lieu à Jérusalem, vous pourrez relire en acte 15, vous le savez certainement, mais je vous rappelle, c'est Jacques, le responsable de Jérusalem, après avoir entendu tous les problèmes qui se posaient concernant fallait-il circoncire, fallait-il manger les viandes immolées aux idoles. Bon. Jacques s'est levé, Jacques a dit à Pierre, à Saul, à Barnabas et tout, voilà. Et ce que Jacques a dit, ça a été répercuté dans les églises. Parce que Jacques a parlé sous l'inspiration du Saint-Esprit, bien sûr. Mais s'il y avait eu un premier pape, c'était Jacques, le frère de Jésus, en fait. Bon. Et le problème, c'est que, justement, Satan est venu déformer un peu ses paroles. Il a trouvé le moyen. Et qu'une église a commencé à se fonder sur un homme qui était reconnu comme chef de l'église, comme représentant de Dieu. Sa parole a été déclarée infaillible. Vous voyez, bon. Et donc, c'était basé sur un fondement erroné. Et maintenant, on a beaucoup de mal, maintenant, à garder la vérité. Et quand on parle Église, souvent, on pense à des personnes qui sont pas sur un bon fondement. D'accord? Bon. Et c'est vrai que Jésus va reprocher à l'Église en Apocalypse, là, notamment à Pergame, Thyatire et Sardes. Il va leur reprocher, d'une part, ou de s'être soumis au monde, ou d'avoir dominé le monde. Vous voyez? Donc, c'est important, le fondement, c'est qui est Jésus et ce qu'il nous a apporté. Ok ? D'accord. Mais ça ne plaît pas à l'ennemi. Hein. Donc, effectivement, l'ennemi, il va tout faire pour dire, mais non, c'est pas ce que Dieu a dit, il cherche à semer le doute. Et c'est pour ça que l'Église, elle est en danger de séduction, l'Église. Et c'est pour ça que là, on va voir rapidement quelques points, je ne vais pas m'étendre, mais qui peuvent nous guetter, nous, faisant partie de l'Église, en fait, parce qu'on est concernés. Un premier point, c'est que là, on peut annoncer une vérité tronquée. Vous savez, le message de l'Évangile, il est merveilleux. On parle des vies que Jésus transforme, c'est vrai. Mais si on ne présente que le côté merveilleux, on est dans une demi-vérité et ça devient du mensonge. Je m'explique. Que ce soit dans ce que vous pouvez entendre comme message, que vous pouvez lire dans les films et tout, si on présente le côté merveilleux de la vie avec Dieu... C'est vrai. Les vies sont changées. C'est vrai que on peut ressentir cette paix que Dieu met dans le cœur et cette joie qu'il met. C'est vrai que on peut vraiment, je dirais, faire l'expérience de la présence de Dieu et qu'on peut avoir des réponses étonnantes de la part de Dieu, que Dieu répond à des prières. C'est vrai. Mais c'est pas un conte de fées. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, on oublie quelquefois, bien qu'il y a des combats à mener, on oublie qu'il y a un engagement à prendre, on oublie qu'il y a des renoncements, que pour marcher à la suite de Jésus, hein, eh bien, il faut prendre sa croix chaque jour et le suivre. C'est-à-dire prendre sa croix, c'est pas seulement supporter des situations difficiles, c'est, eh bien, accepter, même aller jusqu'à la mort. Oui, c'est important. Et suivre Jésus, c'est lui qui commande. On lui obéit à ce qu'il nous demande de faire. Donc quand on entend dire, bon, tu donnes ta vie à Jésus, ben, tu vas connaître une vie sans problème, tu vas devenir riche, bien portant, tu n'auras pas de maladie, les problèmes auxquels sont soumis tous les gens, parce qu'on est dans un monde qui porte la marque du péché, hein, à savoir la maladie, tout ça, bon, tu ne vas pas connaître ça, ça c'est une erreur. C'est important. Ouais. Hein. On n'est plus dans la vérité de l'évangile. On ne parle plus du prix à payer et on ne parle pas qu'on a une mission à accomplir. C'est important ça. Vous savez, affirmer que la vie chrétienne, là j'insiste quand même, que c'est automatiquement, j'insiste sur le mot automatiquement, une vie de victoire sans combat, c'est faux. Il y a un combat de la foi. Hein. Une vie de miracle sans, et des prodiges sans prière, c'est faux. Hein. Et il faut passer du temps dans la prière. Bon. Donc, illustration, c'est tout bête. Des fois, on se méfie pas. On est piégé par des mots ou par... Dimanche dernier, on est à Châtellerault. Vous connaissez peut-être ce chant-là. Et très bien. Hein. Je sais qui je suis en Christ. Je sais qui je suis en Christ. Bon. Hein, et il y a des paroles. On chantait de bon cœur. Hein. J'accomplis des miracles. Ça m'a choqué. C'était plus fort que moi. J'étais voir enfin, les responsables. J'ai dit, je sais que je suis en Christ, mais moi, j'accomplis pas de miracles. Il dit. Je vis des miracles. Jésus fait des miracles. Dieu fait des miracles. Moi, j'accomplis pas de miracles. C'est un détail. Hein. Mais ce chant-là, je ne sais pas si on le chante, je ne sais pas si on a ces paroles-là, je ne souviens plus. Hein. On l'a déjà chanté. Hein. Mais changeons la traduction, ce n'est pas j'accomplis des miracles. Je vis des miracles. Dieu fait des miracles en moi. Parce que oui, non, pas, vous savez, il hein, y a trop de... Hein, on se prend pour Dieu. Après. Non, non. Bon, c'est pas. Donc, vérité. Ensuite, style de vie qui n'est pas conforme. Bon, là, on est dans la vérité. Bon, hein, mais alors, où je me dis chrétien? Hein, et je me comporte pas comme un chrétien, c'est-à-dire il y a l'être et le paraître, il hein, y a un décalage. Ou alors je suis vraiment chrétien, mais je veux passer pour un chrétien, le super chrétien, le chrétien parfait. Quoi. Alors qu'en fait j'ai toujours mes défauts, j'ai toujours hein, mes combats, j'ai mes chutes, j'ai mes bon, hein, mes défaillances. Bon. Donc je veux me faire passer pour quelqu'un d'autre que je suis. Ben, c'est un peu de l'hypocrisie. Quoi. On sait que Jésus là, il a toujours dénoncé ça auprès des pharisiens et des, hein, des religieux de l'époque. Bon. Et il faut savoir en tant que chrétien, l'Église, bon, l'Église elle est pas parfaite. Elle est en devenir. Bon, Saint-Esprit, hein, il y travaille. Bon. Mais pour l'instant, les gens, ils nous regardent. Si vous voulez prétendre être des gens parfaits, ils auront vite fait de voir là où ça ne va pas. Hein, ils verront que, ben non, vous êtes aussi des pécheurs, vous chutez, vous faites des choses répréhensibles. Bon, il faut l'accepter, le reconnaître. On tombe, on demande pardon à Dieu, Dieu nous relève, c'est vrai. Mais pour l'instant, on n'est pas parfait. Donc ça, c'est important. Donc faut savoir reconnaître ses faiblesses. Si on n'est pas dans le vrai. Et un troisième point, c'est donc tolérance par rapport au mal. On reconnaît qu'il nous arrive de pécher, mais ça ne veut pas dire qu'on approuve le péché. Eh oui. L'Église, colonne et appui de la vérité, doit absolument désapprouver tout ce que Dieu appelle mal. On ne peut pas cautionner ça. Hein. Des fois, il y a des églises, on va dénoncer certains péchés, puis en fait, on en couvre d'autres quelque part. Hein. On vit dans le compromis. Et ça, c'est pas être dans la vérité. Bien sûr que on s'imagine que Dieu ferme les yeux, alors on trouve des excuses. Oui, mais Dieu sait que je suis faible, compte tenu de la situation, il comprend. Donc finalement, bon, bah c'est pas grave. Mais bon, on a des fois ce raisonnement-là. Ça, c'est le malin. Est-ce que Dieu a vraiment dit, mais non, mais Dieu, il a peur que... Mais non, bon, ça, méfions-nous. Hein. Dieu a dit, c'est mal, c'est mal. Et pour Dieu, tout péché est un péché. Il n'y a pas des petits péchés, des grands péchés. Bon, ça c'est. Hein, on a hérité souvent de cet enseignement-là, non. Vous savez quel est le péché que Dieu ne pardonne pas? Vous savez? C'est le péché pour lequel vous ne demandez pas pardon. Dieu pardonne tout péché, petit, grand, épouvantable. Dès que vous demandez pardon, Dieu va pardonner. En portant sincère, je parle. Eh oui. Et donc, mais on trouve malheureusement souvent, hein, eh bien, parce que si on ne voit pas que c'est mal aux yeux de Dieu, on accepte, la conscience elle s'endurcit, elle est cautérisée, comme un mot que l'apôtre Paul utilise, hein, au fer rouge, on devient insensible. Et c'est là qu'est le danger justement, c'est que si on est insensible au mal, on voit plus que c'est mal, on ne demande pas pardon à Dieu, et Dieu ne peut pas pardonner. C'est là-dedans qu'il faut mettre le péché contre le Saint-Esprit, d'ailleurs, mais c'est un autre sujet. Mais prenons garde, restons sensibles à ce qui déplaît à Dieu pour ne pas le commettre. C'est important. D'accord. Et souvent, malheureusement, on voit des personnes âgées à la fin de leur vie, ça m'arrive, en tout cas j'en ai beaucoup fréquenté, quand on les met en demeure d'être prêts à comparaître devant Dieu, beaucoup de gens vous disent, de toute façon, moi je suis prêt, j'ai jamais rien fait de mal, bon, elles en sont convaincues, et puis même si j'ai fait, bon, Dieu comprendra, il est bon, donc il va me pardonner. On voit beaucoup de gens. Et ça c'est grave, parce qu'elles ne sont pas conscientes qu'elles ont fait mal, état de pécheur, donc elles ne demandent pas pardon, et là elles se mettent en risque de ne pas recevoir le pardon de Dieu. C'est ça le problème, en fait. Donc c'est pour ça que, j'ai mis, on ira tous au paradis, ça c'est faux. Hein. Vous connaissez la chanson, hein. Enfin, pour les plus anciens, les plus jeunes ne connaissent pas. Hein. Bon. Non, l'enfer existe parce que le mal existe et que Dieu ne peut pas tolérer le mal, en fait. Il est bon, mais il est juste. D'accord. Donc l'Église ne doit pas céder à l'influence de ce monde, en fait. Bon. Et la parole de Dieu est une lumière, est vraiment un repère, et c'est pour ça que, donc, réjouissons-nous de cette initiative qu'a eue notre pasteur de nous faire mémoriser le psaume 119, consacré à la parole de Dieu. C'est très dur à mémoriser parce qu'en fait, c'est les mêmes choses qui reviennent, c'est dit différemment et tout, c'est très dur. Hein. Bon, au moins, mais lisez-le, relisez-le. et on voit toutes les facettes de la parole de Dieu. Hein. Bon, j'en ai relevé encore quelques-unes. Bon, déjà, il y a le commandement auquel il faut obéir, que c'est appelé différents noms, prescription, précepte, la loi, pour éviter la monotonie, c'est vrai, c'est bien. Il y a une nourriture agréable à manger. Plutôt que du miel et tout, bon, c'est bon, on doit aimer se nourrir de la parole de Dieu. Il y a cet aspect qu'elle est une lampe à nos pieds, elle éclaire, on sait où on va, c'est important. Hein. Et puis qu'elle donne sagesse, elle évite de pécher contre Dieu, il y a tout ça. Bon. Donc, c'est important, elle nous convainc de la bonté de Dieu, nous convainc que Dieu est juste. Ben, beaucoup de choses, vraiment, c'est nous lisons, relisons, méditons, serrons-la contre notre cœur pour ne pas pécher contre Dieu, c'est important. Et vraiment, bon, et comme dit Josué, donc invite, on réussira dans toutes nos entreprises si on médite la parole jour et nuit, chaque jour. Ok, bon, alors venons quand même rapidement maintenant. Côté pratique, mais là, il n'y a pas trop détaillé. Pour nous chrétiens, donc. L'Église, c'est nous. L'Église, c'est nous. Bon, et lisez avec moi Éphésiens 2. Éphésiens 2. Verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, vous êtes concitoyens des siens, des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. On retrouve l'Église comme une habitation de Dieu en esprit, fondée sur l'enseignement des apôtres. La pierre angulaire, c'est Jésus. Hein. Donc, il faut voir l'Église comme un lieu où Dieu est présent, bien sûr, présence de Dieu. Un lieu où sa parole est proclamée. Un lieu où on vit la communion fraternelle, l'amour des frères les uns avec les autres. Donc, l'Église, c'est ça. Et on est dans la vérité si on se laisse conduire par le Saint-Esprit, qui est un esprit de vérité. Jésus avait dit à ses disciples... Donc, je vous enverrai le Saint-Esprit, il va vous rappeler ce que je vous ai dit, enseigner, vous conduire dans toute la vérité. C'est le Saint-Esprit qui nous dirige dans la vérité, c'est important. Il nous explique, il convainc, il met en garde, il dirige. Bon. Et c'est lui qui prépare l'Église pour être sans tache ni ride, sainte, irréprochable. La fiancée que Jésus viendra chercher, il ne faut pas oublier. D'accord. Bon. Donc maintenant, prenons le temps de nous interroger, que le Saint-Esprit nous interroge sur l'état de notre cœur. C'est ça qui est important. On va comparer le cœur un peu à l'état des colonnes. Si le cœur n'est pas en bon état, la colonne qui est l'Église ne sera pas en bon état. Alors, est-ce que mon cœur est fissuré? Parce que si, d'un côté, je fais ce qui plaît à Dieu, mais d'un autre côté, je me laisse tenter par le monde qui m'attire avec ses séductions et tout, mon cœur il va être fissuré en deux. Hein. Et nul ne peut servir de maître. Donc ça, c'est important. D'accord. Donc, à quel maître je suis entièrement dévoué? Si j'aime Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, il n'y aura pas de problème. Hein. Mais comment voulez-vous convaincre quelqu'un que vous vivez dans la vérité? Alors, je prends deux exemples. Vous assurez à quelqu'un qui a une autre vie après la mort qu'on fait que passer sur terre, vous dites. La personne, elle vous regarde, et puis elle voit que vous êtes un chrétien qui à accumuler des richesses, à vous installer dans le monde. C'est très important pour vous. Vous savez, attends, il y a un problème là. Il est conscient, il fait que passer, et il s'attache un peu trop sur Terre. Problème là. Bon. Autre exemple. Ah, on fait partie d'une famille, on est la famille des enfants de Dieu, tout ça. Bon. Une famille en général. Il y a du monde, il y a des contacts, il y a des relations. Et ce chrétien qui dit ça, il est tout seul chez lui. Il regarde les messages sur ordinateur, internet, il fréquente aucune église, il fait partie d'une famille. Attendez, il y a un problème là. Oh. Hein? Un jour, il va amener quelqu'un, il va dire, tiens, je t'emmène dans ma famille. Ben, elle est où ta famille? C'est chez lui. Oui, vérité. Bon, on pourrait illustrer. Donc, n'ayons pas de cœur fissuré. Bon, on pourrait parler de la sincérité aussi, parce que vous savez que dans le temps, quand un vase avait une fissure, on mettait de la cire. Hein, et on vendait une garantie label de qualité. Et le mot sincère venait de sincéré, sans cire. Hein, eh oui, sans cire, ça veut dire qu'il n'était pas fondu. Hein, donc, un cœur fendu, il n'est pas sincère. Ok, bon. Alors ensuite, haute qualité, la rectitude, la colonne, elle doit être droite, rectitude spirituelle, c'est important ça. Hein? Parce que si on regarde tantôt à droite, tantôt à gauche, hein, on n'est plus dans la rectitude du chemin que Dieu trace devant nous. Hein? Faut pas se détourner ni à droite ni à gauche. Jérémie 17:9 appelle, c'est Dieu qui parle, la bouche du prophète, dit qu'ils ont tous le cœur tortueux. C'est ça le cœur tortueux. On marche pas en ligne droite, dans le droit chemin. Alors, parce que sinon, on est comme là, hein, bon, j'ai mis une tour qui penche, là, vous savez, elle risque de tomber. Hein. Donc, ayons souci de lire la parole de Dieu et de nous conformer à ce que Dieu nous dit dans sa parole. Bon, autre exemple, maintenant, qu'est-ce qui va détruire une colonne? Des fois, surtout quand il y a du métal, eh bien, on sait très bien que c'est l'oxydation, la corrosion, l'oxydation. Hein. Le cuivre devient vert, le métal devient rouille, mais enfin, tout ça, ça se dégrade. Hein. Et le fer, quand il est vraiment oxydé, il finit par se devenir friable. Bon. C'est quoi un cœur verrouillé? Eh bien, un cœur verrouillé, c'est un cœur qui se laisse marquer par le péché. Je vous rappelle qu'à la nouvelle naissance, on a reçu une nature nouvelle, hein, qu'on peut comparer, je dirais, à la nature de Dieu, en fait, qui est un cœur inoxydable. Un cœur inoxydable. Si tout ce qu'on fait est motivé par cette nature nouvelle, il n'y en a pas à s'inquiéter. Hein. Dieu mettra son accord sur tout ce qu'on fait. Mais si maintenant, vos motivations elles ne sont pas pures, Paul parle de ça dans 1 Corinthiens 3, il parle des motivations. Il appelle ça bâtir sur du bois, du chaume, hein, ou de la paille, avec des mauvaises motivations. Un jour, le feu va mettre le feu, hein, va tout brûler, et il va rien rester de tout ça. Mais si on bâtit des motivations pures, conformes à la parole de Dieu, hein, comme il compare ça de l'or, des pierres précieuses, eh bien, ou de l'argent, ça va résister au feu. Donc, posons-nous la question, est-ce que mes motivations, c'est-à-dire l'état de mon cœur, est pur dans ce que je fais? C'est important. Ça veut dire, sinon, ça veut dire qu'il y a de la corrosion, il y a de la rouille, et attention, hein, si on passe pas si Saint-Esprit vient pas dérouiller tout ça, là, et rendre notre cœur pur, on court des risques. David disait, conscient de son péché et ayant demandé pardon à Dieu, il dira, Psaume 51, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. On doit avoir cette vérité au fond du cœur. Et encore un point sur lequel, toujours par un peu comparaison, qu'est-ce qui donne solidité, effectivement, eh bien à une colonne, ou à toute construction, c'est ce qui unit les pierres entre elles. C'est l'amour et l'unité qui peut y avoir. Et ça, c'est important. Parce que si c'est morcelé, il n'y a rien qui tient debout, en fait. Si nous, on n'a pas, eh bien, je dirais, ce souci de vivre l'amour avec les frères, l'amour avec Dieu déjà, avec les frères, et si on n'a pas concrètement le souci de renforcer cette unité, c'est des relations, c'est des contacts, c'est des soucis, des prières, il y a beaucoup de choses concrètes à faire, c'est important. Hein. Donc, soyons unis dans l'amour. Jésus dira à Jean 17, hein, c'était le souci de Jésus là. Donc, je te prie pour que tout soit un en nous. Ça, c'est important. D'accord? Donc, suivons. Donc, ok. Et ça, cet amour va être un puissant témoignage. À ce signe, tous verront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Important. Donc, on va terminer maintenant. Donc, déjà, je reviens à cette idée de la colonne de la vérité qu'on proclame. Vous voyez? Voilà. On proclame qui est Jésus pour nous. C'est important. On le proclame, mais je dirais à travers tout ce qu'on vit. Hein, à travers ce qu'on va dire, à travers ce que notre comportement. On seulement on le dit, mais je vous dis, vous avez quelqu'un qui a besoin de prière, on va prier que Dieu guérisse. Hein. Et quelqu'un dans le besoin, on va prier que Dieu intervienne. On est là pour manifester la présence de Dieu au milieu de ce monde. Et c'est une présence glorieuse, c'est une présence. Jésus, il est vainqueur, on doit le montrer. D'accord, ça, c'est important. On doit l'afficher. Et si on ne le fait pas, je dirais, ça l'affiche mal. Ah oui. J'ai pas fait, il faut bien que j'en fasse un, Dieu de mots. Donc, on est vu et écouté, c'est important. Paul dira, on est une lettre écrite sur nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est important. D'accord. Donc, quel témoignage je donne ? Est-ce que vraiment, c'est celui d'un amour avec Jésus authentique ? C'est une histoire d'amour. Et quand on est amoureux, on le dit, c'est vrai, ça se voit. On ne peut pas se taire, c'est important. Et ça doit être notre priorité. Toujours donner priorité à Jésus et à Dieu. C'est important. Et souci d'amener ceux qui ne connaissent pas Jésus à le rencontrer, bien sûr. Bon. Voilà. Bon, j'en dis pas plus. Alors, et si on est convaincu dans ce qu'on vit, on va être convaincant. Et cette conviction qu'on va, le Saint-Esprit va s'en servir, le Saint-Esprit va toucher les cœurs. C'est lui qui va convaincre, c'est pas nous, hein. Mais il va se servir de la conviction qu'on monte. D'accord. Et donc, c'est vraiment le souci. Mon souci ce matin, c'est qu'on soit fidèle. À cette mission de l'Église, donc justement, basé sur la vérité, soutient la vérité, sert d'appui à la vérité, et on marche à la vérité, d'accord. Puis je termine par une petite note d'humour quand même. Ah, oui, voilà. Bon, mais attention, il y a une réalité sérieuse derrière. C'est que les Gaulois, vous savez de quoi ils avaient peur, les Gaulois ? Que le ciel ne leur tombe sur la tête. Bon. Mais ils n'avaient pas tout à fait tort. Parce que pourquoi le ciel ne tombe pas sur la tête ? Parce que l'Église, elle est là, la colonne, elle est là. Le jour où l'Église est enlevée, la colonne, elle n'est plus. Et Dieu va déverser sur ce monde ces coupes de colère et de jugement terribles. Relisez l'Apocalypse, ça c'est pas... Et ça attend le monde, hein. Non, c'est une réalité. Et ce jour-là, les gens diront, cachez-nous, ils iront dans les cavernes, ils ne seront pas où se cacher, parce que c'est le ciel qui va leur tomber sur la tête, hein. Ça va être terrible, 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 pour ceux qui seront là. Hein. Donc, c'est pour ça que je vous dis... Il y a aussi cet aspect, on peut le voir d'un côté humoristique, mais il y a une réalité derrière. Et donc, ayons cette crainte, une crainte, mais attention, cette révérence, ce respect de ce que dit dans sa parole, avec sa crainte de lui déplaire, de lui désobéir, et finalement d'être disqualifié, on ne sait jamais. Donc, que ce message, une exhortation, toujours dans le droit chemin. On est des adorateurs, donc on proclame la gloire de Jésus, c'est important. Proclamer, on affiche, et on le montre parce qu'on vit, et puis bon, on n'est pas parfait, mais pas grave, on a toujours ce souci, on se relève, et on y va. Vérité, je crois que c'est important, dans le monde dans lequel on vit, c'est pour ça que si j'ai un cœur, c'est parce qu'on est, vraiment, moi ça me frappe, on est dans le mensonge, de plus en plus dans le mensonge, on peut plus, on ne sait plus à qui faire confiance, ni nos hommes politiques, ni tout ce qu'on peut lire, même les nouvelles que vous recevez, méfiez-vous, il y a tellement de nouvelles fausses. Je vous invite à demander au Saint-Esprit vraiment de sceller ce qui est entendu dans le cœur de chacun. Seigneur, merci encore pour ta parole. Ta parole, elle est la vérité, Seigneur, c'est vrai. Et on veut s'en nourrir, Seigneur. On veut l'apprécier, on veut l'assimiler, Seigneur. On veut la méditer. On veut qu'elle soit vraiment celle qui nous dirige, Seigneur, dans nos pensées, dans nos comportements, Seigneur. Vraiment, on te prie ce matin pour que le Saint-Esprit vienne façonner nos cœurs avec ce souci de toujours, Seigneur, être en conformité avec ta parole, Seigneur. Et surtout qu'on puisse la partager parce qu'elle est vivante, Seigneur. Elle est active. C'est ta parole qui va convaincre ceux qui sont dans l'erreur, Seigneur. C'est pas notre parole, c'est pas notre vérité, c'est ta parole, Seigneur. C'est elle qu'on doit proclamer, Seigneur. Et donne-nous de la proclamer avec humilité, mais avec conviction, Seigneur. Parce que c'est vrai, les gens ont besoin de voir des gens convaincus, et qui vivent dans la joie, qui savent où ils vont, Seigneur. On est là pour le manifester, Seigneur. Et le monde, a besoin, Seigneur, d'avoir des repères tels que nous, tels que l'Église, Seigneur. Et Seigneur, on te prie que l'Église soit fidèle à sa mission, Seigneur, et que nous, déjà, dans ce qu'on vit au jour le jour, qu'on puisse, Seigneur, le réaliser, Seigneur. Merci de visiter chacun de nous ce matin, Seigneur. Et merci de donner cette conviction, cette force, cette puissance, cette onction particulière, Seigneur, pour qu'on puisse être efficace pour ton œuvre, Seigneur. Agis au travers de nous, Seigneur. C'est notre désir. On te le demande au nom de Jésus, Seigneur. Amen. 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 Merci, Seigneur.